Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing Électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
RMC, les grandes gueules.
Il a été dans la famille des GG, il est aujourd'hui député, monsieur Louis Boyard. Monsieur le député Boyard, bonjour.
Bonjour, ça fait très plaisir de revenir ici, ça rappelle des très bons souvenirs. Bonjour aux téléspectateurs, vous m'avez manqué.
Mais tu voulais récupérer ta place.
Ma place était là-bas.
C'est j'ai demandé la tienne alors.
Hein,
je pourrais lui laisser ma place et puis je prends la place de député.
Mais moi, je pensais que tu allais venir en député, en costume.
J'ai mis la veste. Non, mais on me pose beaucoup de questions sur vous allez mettre la cravate, tout ça, donc bien sûr, faut être présent. Hein, élu de la nation. Quand même, il y a une fonction à respecter. Après, je veux pas non plus commencer à me mettre dans un rôle qui n'est pas le mien. Il faut rester ce qu'on est. C'est aussi pour ça que j'ai été élu. Donc, pour le moment, je suis à la veste et au t-shirt.
Tu es le deuxième plus jeune député de cette nouvelle législature.
Tout à fait.
Il y a un Polynésien qui est comme toi à 21 ans, mais il est né quelques mois avant toi, c'est ça?
C'est ça. Je l'ai croisé. On n'a pas encore eu le temps de se parler, mais ça fait. Enfin, on se parlait un petit peu, quoi. Mais ça fait plaisir de se croiser. Surtout qu'avant, le record était détenu par Marion Maréchal Le Pen, qui avait 22 ans. Donc, c'est très plaisant de faire gagner un record à la jeunesse et d'effacer le nom des Le Pen de l'histoire.
Que réponds-tu à ceux qui te disent, mais 21 ans, c'est pas l'âge pour devenir député, on n'a pas d'expérience de la vie. Parce que j'imagine que ça, c'est quelque chose qu'on doit souvent te dire.
Oui, on me l'a dit. Enfin, pour moi, il y a deux choses à répondre sur ça. Déjà, premièrement, bien sûr, on peut se demander, il est jeune, est-ce que cette personne, elle est compétente? Parlez-moi politique. On parle politique et ensuite, c'est à vous d'en juger. Si vous estimez que je ne suis pas compétent, ne votez pas pour moi. Après, il y a quand même un deuxième sujet, c'est qu'on est une assemblée. Il me semble que la moyenne d'âge, elle est de 49 ans. Et il y a quand même quelque chose qu'il faut acter aujourd'hui, c'est qu'il y a une rupture générationnelle. Il y a un décalage et des aspirations de la jeunesse qui ont besoin d'être portées. Par exemple, sur le climat, c'est pas normal que des générations à la tête des États, des entreprises, continuent d'émettre du CO2 à gogo et que derrière, ce soit nous qui en payons le prix. Sur les questions, par exemple, de pauvreté. Vous avez près d'un jeune sur quatre qui vit sous le seuil de pauvreté. Comment est-ce que ça se fait qu'une Assemblée nationale, avec une moyenne d'âge de 49 ans, n'ait pas encore voté de loi d'urgence sociale pour sortir les jeunes de la pauvreté? Vous avez les questions d'égalité entre les femmes et les hommes, les questions de genre, les questions de racisme. Il y a un décalage et une incompréhension entre la jeunesse et la classe politique. Et il y a besoin de porter ça. Donc j'ai envie de rentrer dans l'Assemblée et de bousculer un peu les codes.
Bruno Pommard. Louis, bravo d'abord pour ton élection formidable dans le 94 face à Saint-Martin,
tout à fait.
Le président de la commission finances, conseiller régional, et puis qui a fait venir un paquet de ministres sur le territoire.
Florent Saint-Martin,
ça a dû être un peu dur. Moi, il y a quelque chose qui m'interpelle. Deux choses. Sur tes positionnements concernant cette rupture générationnelle.
Ouais.
Et tu as apporté ton soutien souvent à Adama Traoré.
Mm-hmm.
Bon, le climat, ça on le sait, à MeToo. Bon, mais MeToo, Adama Traoré, il y a une espèce de grand écart là qui ne convient pas, parce qu'on sait quand même le parcours, je dirais, perdu de certains membres de cette famille, qui sont quand même multirécidivistes, violeurs, racketteurs, tout ce qu'on peut imaginer. Comment tu arrives à faire un écart pareil entre MeToo, où c'est, on protège les femmes et c'est normal qu'on revendique tout ça, c'est un grand écart.
Alors, Louis,
Sur cette question-là, il y avait même eu un débat juste avant, il me semble, le premier tour des élections législatives, où Mélenchon avait dit « la police tue ». Et c'est un fait que la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas de tuer. Et moi, je pense que dans l'affaire Adama, la police n'avait pas le droit de tuer. Et c'est ça qu'on veut porter, c'est de dire que ce n'est pas normal que, par exemple, dans le cas Adama, mais dans le cas de Steve Maya Canisso, qui a été qui est mort noyé après une charge de police, où ni la préfecture, ni l'État, ni les députés ne reconnaissent qu'il y a une responsabilité de l'État dans tout ça. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que c'est même sur l'institution policière qu'on jette le discrédit. Il y a des erreurs parfois, et il faut les assumer.
Sur l'institution, tu parles. Attention, c'est grave quand même, parce que lorsque tu parles, la police tue, c'est un mot générique qui veut rien dire, très sincèrement, ou les violences policières, ça ne veut rien dire. C'est quand même très grave de dire la police tue.
C'est un fait que la police tue. Steve Maya Canisso a été tué après une charge de policier.
Tous les jours, elle tue des gens.
Pas tous les jours, mais ça arrive tous les ans. Tous les ans, la police tue. La question, c'est de savoir si elle a le droit ou pas. Et de nombreuses fois, la police n'avait pas le droit de tuer. Et on le dit, non, la police n'a pas le droit de tuer. Elle n'a pas le droit, par exemple, comme c'était le dernier cas sur le débat avant les législatives, où on a tiré sur une jeune femme qui avait mon âge. Et là, c'est notre rôle, nous, en tant que politique, de dire
récupérer.
Ils n'avaient pas le droit. Mais regardez, pendant le mouvement.
Attends, qui te dit
pendant...
qu'ils n'avaient pas le droit? Excuse-moi, parce que là.
Parce
c'est...
que, bah, est-ce que, il valait mieux tirer dans les pneus?
Ah!
Mais oui!
Sur le plateau,
mais c'est le rôle d'une parole politique de dire ça. Enfin, pendant tout le mouvement des Gilets jaunes, pas un seul politique n'a reconnu les violences policières. Je veux dire, pas un seul membre de la majorité a été capable de reconnaître qu'après Mantes-la-Jolie, où on a mis à genoux, main sur la tête des lycéens, il y avait violences policières. Et c'est là où ensuite je dis que l'institution a aussi un rôle à jouer.
Parlons de tuer. Est-ce que tu l'as pas fait encore puisque tu viens d'arriver, mais moi je t'invite, et je le fais à titre personnel parce que évidemment je suis de la maison police depuis bien longtemps, à aller passer quelques journées, quelques soirées avec la BAC. Je sais que ça va pas faire plaisir à M. Mélenchon, mais pour autant, je pense que ça serait intéressant que tu ailles voir un peu la difficulté que c'est, malgré ta jeunesse, et je suis persuadé que tu iras, je te ferai inviter même, d'aller passer des moments avec nos policiers qui tous les jours, toutes les nuits, font face à des voyous, à des vrais voyous, voire à des tueurs, parfois armés. Et lorsque tu me dis effectivement que la police se tue, quelque part, ça interpelle l'institution policière de façon générale. Donc je crois que faire une généralité de ça, c'est terrible. Et je pense que là-dessus, la France Insoumise devrait faire un effort. Parce que si on n'a plus de BAC demain, si on n'a plus de braves, si M. Mélenchon, est-ce que vous souhaitez, la LFI, veut réformer toute la police, alors je ne pense pas que vous aviez de grands spécialistes de la police à la
France. On a des très grands spécialistes de la police à la France Insoumise, tout à fait.
Langlois ?
Tout à fait. Eh bien, écoutez, je peux aussi vous donner l'exemple du député Hugo Bernalicis, qui a fait des très bons travaux à l'intérieur, qui a même travaillé au ministère de l'Intérieur.
Vrai, je l'admets. Mais pour autant, très sincèrement, il faut aller sur le terrain, voir ce qui se passe et ensuite.
Tu es prêt à y aller en tant que député?
Mais bien sûr, mais c'est mon rôle en tant que député que d'y aller. Super. Mais alors, déjà, c'est bien qu'on ait un débat sur la police, mais j'aimerais bien aussi parler de la situation du Parlement. Mais ce que j'ai envie de dire, c'est que à maintenir une position de déni par rapport au fait qu'il y ait des violences policières, d'accord, que parfois la police tue et qu'elle n'ait pas le droit, on jette le discrédit sur l'institution parce que près de 40% des Français n'ont pas confiance en leur police. Et ce n'est pas situation normale. Écoutez, je vous donne les sondages. Ce que je dis, c'est que à continuer de s'entêter sur ce déni, d'accord, par rapport au fait que, oui, parfois, il y a beaucoup d'erreurs qui sont commises. Et elles sont couvertes par la majorité et par l'institution et par le fait qu'il faut changer ça.
On va pas parler que de ça.
C'est ça qui me choque.
Moi, je vais poser une autre question. Bon, déjà, vraiment, je ne partage pas tes idées, mais je te félicite de t'être bougé, d'avoir réussi à 21 ans à réussir à être élu. Je trouve que c'est vraiment une belle performance. Il faut aussi le reconnaître. Et donc tu représentes finalement aussi la jeunesse. Et si tu devais prendre une mesure, ou une mesure que tu aimerais porter pour la jeunesse, quelle serait cette mesure ?
Écoutez, il y en a beaucoup. Une mesure qui me tient particulièrement à cœur, ce serait le revenu étudiant. Ce n'est pas vrai aujourd'hui de dire qu'il y a une égalité dans l'éducation. Vous avez près d'un tiers des étudiants qui vivent sous le seuil de pauvreté. Il y a aussi quelque chose de particulièrement injuste. Quand vous avez travaillé la moitié de votre année pour payer vos études et que vous vous retrouvez au partiel à côté de quelqu'un d'autre qui avait des parents qui ont pu payer les études, c'est à se demander si jamais l'égalité, qui est un principe fondamental de la République, existe réellement dans l'éducation. Mais la mesure principale, c'est celle du climat. Et c'est ça, ce que je veux bouger dans cette assemblée. Non, c'est pas normal qu'aujourd'hui, on laisse les grosses entreprises continuer d'émettre du CO2 parce que derrière, c'est ma génération et la génération qui suivra qu'on condamne. Le GIEC nous donne 3 ans. Est-ce qu'on est capable de respecter ces délais-là? Non. Pourquoi est-ce que personne ne se réveille? Pourquoi est-ce que toute la presse n'est pas en train de dire que là, nous courons droit vers la catastrophe et que derrière, c'est à nous qu'on fait payer le prix? Donc, c'est ça que j'ai envie de faire.
Bah, les médias le disent quand même.
Les médias le disent et rien ne change.
Et donc, en mesure concrète, qu'est-ce que ça donne?
Eh bien, écoutez, mettre dans la Constitution la règle verte. C'est-à-dire, on ne peut pas prendre plus à la nature que ce qu'elle est capable de constituer. Déjà, si jamais on met cette règle-là, on est capable d'avancer.
Ça veut dire quoi, Louis? Parce que moi,
écoutez, déjà, par exemple, il y a aussi la planification écologique. On a besoin d'énormément de métiers pour faire.
Il a repris ce terme de planification écologique, Emmanuel Macron.
Il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Je lui demande pas de dire, je lui demande de faire. Et pour le moment, il ne fait rien.
Justement,
il a été condamné 2 fois pour inaction climatique.
Justement, là maintenant, il y a une assemblée, personne n'a de majorité, personne n'a gagné finalement. Celui quand même qui a le plus grand groupe, c'est Emmanuel Macron. Il va devoir donc composer avec les autres. Est-ce que tu seras capable d'accepter un compromis, de faire avancer des dossiers et derrière de voter des projets qui seront proposés?
Nous, là, pour le moment, on a une très grosse responsabilité. Les prix sont en train d'exploser. Les Français ont des très grosses attentes par rapport à nous. Et là, aujourd'hui, avec le jeu qu'est en train de jouer Emmanuel Macron, on est en train de mettre le droit dans un engrenage dans lequel on ne va pas sortir. Parce que 71% des Français sont heureux qu'Emmanuel Macron n'ait pas eu de majorité. On a donc un président de la République qui est désavoué par la majorité des Français. On a un gouvernement qui n'ose même pas solliciter un vote des députés pour se légitimer et une Assemblée nationale dans laquelle il n'y a pas de majorité. Aujourd'hui, Macron dit « faisons du compromis, travaillons ensemble ». Si on va dans cette direction, c'est le chaos. Pourquoi ? Il faut arrêter d'être dans le déni et de jouer l'hypocrisie. Il faut un vote de confiance. Ce dont on a besoin, c'est de clarification. Et je suis assez choqué qu'on trouve normal qu'une première ministre et son gouvernement, après l'élection d'une assemblée nationale où il n'y a pas de majorité, n'osent pas se présenter
c'est
devant les représentants du peuple.
Fois, Michel Rocard n'avait pas sollicité.
Mais je trouve que c'est pas normal.
Mais
vous savez quoi? Vous savez quoi? Si jamais il y a dissolution, Emmanuel Macron n'aura pas la majorité. Parce qu'il faut aussi acter le fait que si jamais il a été élu président de la République, c'est parce que les gens ont voté contre Madame Le Pen et pas contre son programme.
La dissolution n'est pas sûr d'être élu non plus.
Ouais, écoutez, si jamais je suis pas réélu mais qu'on a une majorité NUPES, j'en serais très heureux.
71% des Français ne veulent pas que Mélenchon. Oui, mais il y a 80% qui veulent pas de Mélenchon Premier ministre aussi. Donc.
Mais écoutez, on va convaincre. Non, peut-être qu'il voudrait de Mélenchon président.
Ce que je veux dire, c'est d'abord félicitations, mais bon, ça c'est une banalité parce que c'est une réalité.
Mais c'est important de le dire.
Et je voulais quand même te dire qu'il faut être conscient que on a eu un débat tout à l'heure sur le look des députés. Moi, je trouve que tu ressembles à la jeunesse, toi. Même la veste est de trop, tu portes un jean, des baskets et des t-shirts, et les jeunes s'habillent comme ça. Donc, tu as une vraie représentativité pour la jeunesse. Et il faut que tu fasses attention à ton message. Ton rôle aujourd'hui, c'est d'expliquer à notre jeunesse qu'il faut qu'ils croient en eux, plutôt que croire en l'État. Qu'ils peuvent faire de grandes choses s'ils croient en eux et qu'ils ne doivent pas tout attendre de l'État. Et j'ai l'impression que dans le discours de la NUPES, ben c'est plutôt un discours demandez toujours à l'État, tout ce qui vous arrive, c'est la faute de l'État, et vous n'êtes responsable de rien dans votre vie. Donc ton discours à toi, qui devient un véritable représentant de la jeunesse, c'est de leur dire croyez en vous, croyez dans vos projets, et ne comptez que sur vous, quelque part. Ne comptez que sur vous.
Moi, si jamais je devais ajouter, je suis d'accord sur le fait que la jeunesse, elle doit être actrice de sa propre existence, mais ce que demande la jeunesse, c'est une action de l'État. Et si jamais les jeunes m'écoutent, je leur dis, écoutez, je suis élu député à l'Assemblée nationale, je vais porter nos revendications, mais j'ai besoin de vous. J'ai besoin que vous soyez dans la rue, j'ai besoin que vous soyez dans les associations, j'ai besoin que vous soyez dans les syndicats. J'ai besoin qu'on manifeste.
Il a plus de chances de les vivre qu'un député de 80 ans.
Mais oui, mais le truc, c'est qu'on a besoin. On a besoin aujourd'hui que la jeunesse se réveille. Le GIEC nous donne encore que 3 ans. On a près d'un jeune sur 4 qui vit dans la.
Donc vous allez faire plein de propositions. On va faire que groupe NUPES.
Nous, on veut être que dans la proposition. Et sur chaque, je pense que sur chaque proposition de loi, on va faire notre mieux pour toujours faire une contre-proposition. Parce qu'aujourd'hui, Emmanuel Macron avait dit dans son allocution, travaillons ensemble, mais sur la base de mon programme. Non, parce que la majorité des Français rejettent son programme.
Il a été quand même élu.
Il a une majorité relative à l'Assemblée.
Si jamais Emmanuel Macron avait réellement été élu parce que la majorité des Français adhérait à son programme, alors il aurait eu une majorité à l'Assemblée.
Non, il y a deux légitimités. Il y a une légitimité présidentielle. Emmanuel Macron a été élu. Alors après, pour X raisons, il a été élu. Et il y a une légitimité législative. Effectivement, il y a une nouvelle assemblée.
Emmanuel Macron est le président de la République. Il a légitimité à négocier et signer les traités. Il a légitimité à diriger l'armée. Il a légitimité à être garant des institutions. En revanche, ici, c'est les députés qui votent les lois. Et nous avons toute légitimité à dire non, monsieur le président de la République, ce n'est pas parce que vous êtes pour la retraite à 65 ans que nous, on fera la retraite à 65 ans. Nous sommes des élus du peuple, réunis dans une assemblée. Nous savons pourquoi est-ce que nous avons été élus et nous porterons ce pourquoi nous avons été élus.
Une question concrète, en tant que député, tu vas avoir un traitement de 5 500 euros, c'est ça?
C'est ça, ouais.
Qu'est-ce que tu vas faire de
Alors déjà, il y a une partie qu'on va donner au mouvement et c'est bien normal parce qu'il faut que le parti puisse tourner. Et puis moi, derrière, j'ai été étudiant, précaire, j'ai un prêt étudiant. C'était une grande angoisse que de savoir comment le rembourser. J'ai la chance de pouvoir le faire.
Donc ça va devenir un métier pour toi?
Honnêtement, j'ai pas envie de devenir député toute ma vie. Moi, c'est ce que je disais sur les grandes gueules avant. Moi, ce que j'ai envie d'être, c'est avocat. Vous faites du droit pénal. Moi, j'ai envie de faire la double spécialité pénale publique.
Tu seras un futur confrère.
Bah avec immense plaisir. Moi, aujourd'hui, si jamais j'ai été élu, c'est déjà parce qu'il y a beaucoup de travail à faire sur ma circonscription. J'espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Mais j'ai plein de choses. Par exemple, vous parliez des quartiers des voyous. Venez dans les quartiers de ma circonscription. C'est avec grand plaisir que je vais vous emmener à Célier, que je vais vous emmener au Bois Matard. Vous irez voir les associations. Après, on ira faire un tour au quartier des Pologne à Valenton, à la Lutèce, et vous verrez que non, ce n'est pas vrai. Les voyous ne font pas la loi dans les quartiers. Vous verrez aussi ce qu'il y a de beau dans les quartiers. Parce que je pense que c'est ça aussi une autre responsabilité. C'est que quand on parle des quartiers, on parle constamment de la délinquance. Sur l'image de fond là-bas, on avait une personne avec du feu derrière. Il faut parfois aussi montrer ce qu'il y a de beau dans les quartiers. Des associations qui font tenir tout le quartier à elles toutes seules. Des jeunes qui ont envie, mais à qui on ferme les portes pour mille et une raisons. Et oui, il y a des problématiques et il y a de la politique à faire pour pouvoir corriger les choses.
Il faut de la police.
Mais il faut, pour moi, il faut de la police de proximité dans les quartiers. Comment?
Pourquoi vous en voulez plus de la police?
Mais nous, on veut de la police de proximité dans les quartiers. Parce que la BAC aujourd'hui, pour moi, elle ne remplit pas la fonction qu'elle a, c'est-à-dire de lutter contre le grand banditisme. Ça doit être une autre police d'intervention. Mais en tout cas, j'ai un message à faire passer. J'ai des quartiers populaires dans ma circonscription, et quand ils allument leur télé, souvent ils se sentent insultés parce qu'on montre tout le temps ce qu'il y a de moche et caricatural dans les quartiers. Dans les quartiers, il y a des belles choses et il faut le montrer. Alors, et chaque personne qui veut montrer que les choses moches, et ben je les invite à venir dans ma circonscription et je vous montrerai ce qu'il y a de magnifique dans les quartiers.
Revenons. Si la thématique, ça avait été de dire les quartiers, y a-t-il des gens bien dans les quartiers?
Mais pourquoi est-ce qu'on en parle jamais? Pourquoi est-ce qu'on parle jamais de ces associations qui font tenir tous les quartiers à elles toutes seules? Pourquoi on n'en parle jamais?
Louis, revenons à ce qui va se passer dans les travées du Palais Bourbon. Tu as découvert, c'est mardi, et tu vas avoir un bloc de 89 députés du Rassemblement National.
Ah mais ça je suis absolument effaré de voir ce qui est en train de se passer. Emmanuel Macron n'a pas un seul mot sur le fait que le Rassemblement National a un groupe. Pire maintenant. Oui, non mais ils ont un groupe, mais il y a 20 ans, on était tous assez d'accord pour dire que Front National, Rassemblement National, il fallait s'en méfier et que non, ce n'est pas normal qu'aujourd'hui en France,
c'est une
oui mais écoutez, qu'ils aient été élus autant que moi, mais il y a une défaite morale et politique dans le fait que le Rassemblement National soit en constante augmentation et que personne n'ait un mot pour dire que c'est une défaite morale et politique que le Rassemblement National. Et même j'irai plus loin, aujourd'hui Emmanuel Macron est en train de négocier avec le Rassemblement National et le mais bien sûr que oui, ils veulent voter les lois avec eux. Mais non, mais bien sûr que non. Il y a quand même une ligne morale de dire que non, le Rassemblement National.
Qui fixe l'immoral? Qui fixe l'immoral? Parce que j'ai entendu en Macronie des gens dire que l'ANUPS et Rassemblement National, il fallait pas bosser avec eux.
Oui,
Olivier Véran dit ni la France Insoumise, ni Rassemblement National.
Je trouve que beaucoup d'hommes d'État sont tombés dans une certaine bassesse politique. Jacques Chirac, qui n'est pas un homme de mon camp, disait ne composez jamais avec le racisme et l'antisémitisme. Il refusait un débat avec Jean-Marie Le Pen. Où sont ces hommes d'État qui étaient capables de dire oui, j'ai des désaccords avec la gauche, mais les adversaires de la République, c'est l'extrême droite. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui ça devient naturel qu'Emmanuel Macron s'affiche avec Marine Le Pen, tout sourire, et qu'il veuille négocier les lois avec eux?
Mais avec vous aussi.
Mais je ne traiterai pas avec le Rassemblement National. Je ne composerai pas.
Le Rassemblement National, c'est un manque de respect pour les électeurs. Moi,
il y a deux types. Il y a les fachos et les fâchés. Les fachos, je leur parle pas. Les fâchés, avec aucun problème, je leur parle parce que j'ai à les convaincre et je veux leur dire le Rassemblement National. Le dimanche, il vous donne un bulletin avec marqué la seule opposition à Emmanuel Macron. Et trois jours plus tard, vous voyez Marine Le Pen tout sourire, en train de serrer la main au président pour voter les lois avec elle. Elle est contre l'augmentation du SMIC. Elle est déjà pour composer avec le président de la République.
Quatennens a été reçu aussi par le président.
Quatennens a été reçu, et il a dit écoutez, nous, on ne va pas rentrer dans les magouilles politiciennes avec vous pour avoir des places, contrairement à Marine Le Pen. Nous, on veut un vote de confiance à l'Assemblée. Comment est-ce qu'on peut se dire être l'opposition à Emmanuel Macron et ne même pas être capable de prononcer le mot vote de confiance devant les députés de l'Assemblée nationale? Pourquoi est-ce que le Rassemblement National ne demande pas ça? Ils sont contradictoires avec leur ligne. Et là, ils sont en train de prouver quelque chose. Ils ne sont pas une opposition à Emmanuel Macron.
Ils prouvent qu'ils sont capables de gouverner. Or, les insoumis donnent l'image, peut-être, d'être insoumis,
mais pas
capable d'être dans un gouvernement, ou en tout cas de prendre les manettes.
Eh ben, écoutez, nous, on a beaucoup de propositions. Mais vous voyez bien, le Rassemblement National se propose de gouverner très bien. Avec qui? Avec Macron. Ils sont contre l'augmentation des salaires, comme Emmanuel Macron. Ils sont contre la retraite à 60 ans, comme Emmanuel Macron. Le Rassemblement National, sur la politique économique, n'a en réalité pas tant de désaccords que ça avec Emmanuel Macron.
La loi, la LOPSI. Est-ce que la LFI va la voter, par exemple?
La loi, la LOPSI.
La loi d'orientation et programmation de la sécurité intérieure.
Écoutez, vous allez la voter, là, par exemple. Moi, je ne prends pas les... je viens d'arriver à l'Assemblée, je ne prends pas les décisions seules. Si jamais on est fort en tant que député, c'est parce qu'on agit en groupe. Et on n'agit pas uniquement en groupe avec LFI, parce que je siège au groupe LFI. On agit avec la NUPES. Écoutez, là, pour le moment, la décision a été prise que chacun aurait son groupe et qu'on va faire un intergroupe, qu'on va se réunir tous ensemble. Et puis, mais après, quand je croise les socialistes, les communistes, les écologistes, dans les couloirs. On est de la même famille.
Par exemple, pour la présidence de la commission des finances, c'est Éric Coquerel qui est candidat des Insoumis ou de la NUPES. Parce que j'ai entendu que Valérie Rabault pour le Parti Socialiste voulait également se porter candidate.
Écoutez, pour le moment, on est beaucoup à avoir envie d'avoir une réunion tous ensemble avec tous les députés de la NUPES.
Vous d'accord.
Et on va se mettre d'accord ensemble.
Il n'y aura qu'un seul nom.
Parce que, comment,
il n'y aura qu'un seul nom NUPES.
Je crois que, parce qu'il y a eu les discussions du coup, entre les différents responsables des groupes, oui, on aimerait présenter un seul nom. Mais c'est normal, on est la première force d'opposition.
Eh ben,
on
travaille ensemble. La semaine prochaine.
Sur la NUPES, j'aimerais quand même rappeler quelque chose.
Attention,
on va avoir de nombreuses batailles ensemble. On va avoir les batailles sur les retraites.
Des oppositions aussi.
Mais oui, mais parfois, on va avoir des oppositions. Mais il faut acter le fait que quand on est rassemblé, on gagne. Et on va avoir de nombreuses batailles. Et notamment, mais écoutez, on est la première force d'opposition à Emmanuel Macron
groupe,
aux législatives.
Ce
qui est quand même une grande victoire.
Merci Louis.
Il
n'a rien perdu de sa fougue et de sa
passion
et de son engagement.
Réinvitez-moi, ça avec grand plaisir de venir vous voir.
Oh, t'inquiète avec ce qu'il va y avoir.
Et donc, Louis, t'iras patrouiller un jour avec Bruno.
Si jamais tu viens voir ensemble avec moi ce qu'il y a de beau dans les quartiers.
Alors là, c'est le sujet sur lequel j'étais à la Duchère il n'y a pas longtemps. Ça fait 30 ans que j'y suis, la carte. Je les connais par cœur.
Parfait.
Mais par contre, je t'invite avec la BAC.
On y va. Allez, vous nous raconterez ça ensuite. Vous viendrez nous le raconter dans les GG. Merci Louis Boyard. On se retrouve lundi avec Barbara Lefebvre, Didier Giraud, Stéphane Manigold. Et maintenant, ça va continuer de discuter, de débattre, bien sûr, sur RMC Story.